Chapitre 4. Partage. Kenny humecta son mouchoir dans de l'huile citronnée et s'enlissa la barbe et la moustache. Puis il s'observa dans le miroir au cadre doré au-dessus de sa cuvette. L'huile leur donnait un lustre supplémentaire, mais ce n'était pas l'effet qu'ils recherchaient. Le parfum de citron ne suffisait pas encore à empêcher la puanteur de Partage d'accéder à ses narines. Entrer dans Partage, se dit-il, revenait à se faire remorquer à quai dans les remugles musqués d'une aisselle d'esclave. Quittant ses quartiers, il émergea sur le pont. L'air à l'extérieur était aussi étouffant et moite qu'à l'intérieur, et la pestilence encore pire. Il observa avec dégoût les côtes les plus proches de Partage. Le refuge des pirates avait été bien choisi. Pour le découvrir, il fallait non seulement connaître la route, mais en capitaine consommé, faire remonter à son navire un cours d'eau qui conduisait dans les terres. La rivière limpide qui menait à ce lagon n'avait rien de plus attirant que la dizaine d'autres qui sinuaient à travers les multiples îles de la côte changeante jusqu'à la vraie mer. Mais celle-ci possédait un chenal profond, quoique étroit, dans lequel un bateau à voile pouvait naviguer, et un lagon placide où l'on pouvait mouiller à l'abri des tempêtes, même les plus violentes. Autrefois, le paysage avait dû être magnifique. Aujourd'hui, des quais et des jetées moussues pointaient de toute terre ferme. La végétation luxuriante qui surplombait la rivière avait été tellement taillée qu'il n'en restait qu'un sol fangeux. Le flot du courant, pas plus que la brise, ne suffisait à disperser les déchets et la fumée des chaumières groupées, des masures et des boutiques de la cité pirate. Un jour ou l'autre, les pluies d'hiver viendraient nettoyer brièvement la ville et le lagon, mais, par une chaude journée d'été, le port de Partage avait tout le charme et la séduction d'un pot de chambre plein. Jeter l'ancre le long d'un quai pour plus de quelques jours revenait à inviter la mousse et la pourriture sur la coque du navire. Boire l'eau des puits, sauf de quelques-uns, donnait la diarrhée, et même la fièvre, si on jouait de malchance. Pourtant, alors que Kenneth regardait le pont de son navire, il voyait son équipage travailler bien et de bon cœur. Même ceux qui, dans les chaloupes, remorquaient le Marietta vers le port, tiraient sur leurs rames avec énergie, car pour eux, la puanteur régnante était le doux parfum du bercail et celui de la paix. Suivant la tradition, le butin serait partagé sur le pont dès que le Marietta serait amarré. D'ici quelques heures, il pataugerait jusqu'au nombril dans la bière au milieu des putains. Et oui, et avant le lever du soleil, le butin qu'il s'était approprié avec tant de mal serait passé dans les mains des aubergistes mielleux, des maquereaux et des marchands de Partage. Kenneth secoua la tête d'un air apitoyé et tapota une fois de plus sa moustache avec son mouchoir parfumé au citron. Il se permit un petit sourire. Au moins, cette fois, non content de répandre le résultat de leur pillage à travers la ville, ces hommes sèmeraient les graines de l'ambition de Kenneth. Avant demain matin, il était prêt à parier que la moitié de Partage aurait entendu l'histoire de l'oracle du capitaine Kenneth sur l'île des autres. Il avait l'intention de se montrer exceptionnellement généreux avec son équipage quand viendrait l'heure de la répartition du butin. Sans ostentation, il ne s'octroierait qu'une double part cette fois-ci. Il voulait que ces hommes repartent les poches alourdies par leur paix. Il désirait que tout Partage remarque et se rappelle que les hommes de son navire paraissaient toujours entrer au port avec des bourses bien pleines, qu'on l'attribue à la chance et à la largesse de leur capitaine, et qu'on se demande si un peu de cette chance et de cette largesse ne finirait pas par profiter à Partage tout entier. Le second vint se planter respectueusement près de Kenneth, accoudé au bastingage. Sorcor, tu vois ce bout de falaise là-bas? Une tour dressée là commanderait la rivière sur une longue distance, et une baliste ou deux à son pied pourrait la défendre contre tout navire qui aurait découvert notre chenal. Non seulement Partage serait averti largement à l'avance d'une attaque, mais elle pourrait se défendre elle-même. Qu'en penses-tu? Sorcor se mordit la lèvre inférieure, mais resta impassible par ailleurs. Chaque fois qu'ils entraient au port, Kenneth émettait la même proposition, et chaque fois, le second amariné répondait de la même façon.
Si on trouvait assez de pierres dans ce marécage, on pourrait peut-être bâtir une tour et hisser des rochers pour les projeter. Ce serait peut-être possible, capitaine. Mais qui paierait pour ça et qui surveillerait les travaux? Partage ne cesserait jamais assez longtemps de se bouffer de nez pour construire et garnir d'hommes un bâtiment pareil.
Si Partage avait un chef assez fort, il pourrait y arriver. Il pourrait d'ailleurs accomplir bien d'autres choses.
Sorcor jeta un regard circonspect à son capitaine. Cette fois, la discussion glissait vers un nouveau terrain.
Partage est une ville d'hommes libres. On n'a pas de chef.
C'est exact, convint Kenneth. À titre d'expérience, il ajouta. Et voilà pourquoi c'est la cupidité des marchands et des maquereaux qui nous gouvernent. Regarde autour de toi. Ici, le moindre marin risque sa vie pour ses gains. Cependant, le temps de mouiller l'ancre, où est son or? Plus dans ses poches. Et qu'a-t-il à la place? Rien qu'un bon mal de tête, à moins qu'il n'ait eu la malchance d'attraper en plus des morpions dans un bordel. Plus on a à dépenser à Partage, plus cher coûte la bière, le pain et les femmes. Mais tu as raison. Ce n'est pas d'un chef que Partage a besoin, mais d'un meneur, d'un homme capable d'inciter les autres à se gouverner eux-mêmes, de les réveiller afin de leur faire ouvrir les yeux et voir ce qu'ils pourraient posséder.
Kenneth reporta son regard sur le dos des hommes courbés sur les rames, tandis que les embarcations remorquaient le Marietta à quai. Rien dans son attitude ne pouvait indiquer à Sorcor qu'il venait d'entendre un discours soigneusement répété. Kenneth appréciait son second. Ce n'était pas seulement un bon marin, mais un homme intelligent malgré son instruction limitée. Si Kenneth parvenait à l'ébranler par ses propos, d'autres aussi commenceraient peut-être à l'écouter. Il prit le risque de ramener les yeux sur Sorcor. Le second avait le front plissé, ce qui tirait sur sa cicatrice luisante, vestige de son tatouage d'esclave. Après avoir laborieusement réfléchi, Sorcor déclara.
« On est des hommes libres ici. Ça n'a pas toujours été vrai. Plus de la moitié de ceux qui sont venus ici étaient des esclaves, ou allaient le devenir. Beaucoup portent encore un tatouage ou la marque d'un ancien tatouage. Les autres, eh bien, les autres se retrouveraient devant un nœud coulant ou un fouet, ou peut-être les deux, s'ils retournaient là d'où ils sont venus. Un soir, il y a quelques jours, vous parliez d'un roi des pirates. Vous n'êtes pas le premier à en parler, et on dirait que plus il y a de marchands qui s'installent ici, plus cette idée leur trotte dans la tête. Mais on en avait un là d'où on est venu, et pour la plupart, c'est pour ça qu'on est arrivé ici au lieu de rester là-bas. Personne chez nous ne veut d'un homme qui nous dise ce qu'on peut faire et ne pas faire. On y a déjà bien assez droit à bord d'un navire, sauf votre respect, capitaine.
De rien, Sorcor. Mais on peut considérer l'anarchie comme une oppression désorganisée.
Kenneth scruta le visage de Sorcor et la perplexité qu'il y eut lui dit que le choix de ses mots était mauvais. Manifestement, il fallait encore qu'il s'exerce à la persuasion. Il eut un sourire enjoué.
C'est en tout cas ce que diraient certains. Pour ma part, j'ai plus confiance dans mes semblables et j'aime mieux les mots simples. Qu'avons-nous à Partage actuellement? Une collection de brutes. Te rappelles-tu le temps où Podée et sa bande passaient leur temps à casser la tête des gens et à leur voler leurs bourses? On regardait comme presque normal que si un marin se rendait à terre sans ses compagnons de bordée, il se fasse rosser et dépouiller avant minuit. Et s'il se faisait accompagner, le mieux qu'il pouvait espérer était une rixe avec la bande de Podée. Si trois bordées de navires n'étaient pas tombées sur le dos de Podée et de ses hommes, on y serait encore. Aujourd'hui même, il existe au moins trois tavernes où un homme qui entre dans une chambre sombre a autant de chances de prendre un coup de gourdin derrière les oreilles que de profiter de la pute qu'il a payée. Mais personne n'intervient. Ce sont les affaires de celui qui s'est fait assommer et dépouiller.
Kenneth jeta un regard par en dessous à Sorcor. Le second avait toujours le front plissé, mais il hochait la tête. Avec une étrange petite émotion, Kenneth se rendit compte que l'homme de barre prêtait autant d'attention à leur conversation qu'à maintenir le navire sur son cap. En toute autre occasion, Kenneth l'aurait réprimandé. Mais cette fois, il ressentait comme un petit triomphe. Cependant, Sorcor avait remarqué l'attitude de l'homme en même temps que son capitaine.
« Et toi, là, tu es là pour guider le navire, pas pour écouter tes supérieurs. »
Et Sorcor se précipita sur l'homme avec un air menaçant. Le matelot se raidit en attendant un coup de poing, mais il ne recula pas ni ne bougea de son poste. Tandis que le second traitait l'homme de barre d'idiot et de bon à rien, Kenneth alla vers l'avant. Sous ses bottes, les ponts étaient aussi blancs que le sable et la pierre ponce pouvaient les rendre. Où qu'il regardât, tout n'était que précision et industrie. Chaque matelot s'occupait d'une tâche, et toute pièce d'attirail qui n'avait pas d'usage immédiat était soigneusement rangée à sa place. Kenneth sourit à part lui. Tel n'était pas le cas quand il avait posé pour la première fois le pied sur le Marietta 5 ans plus tôt. C'était alors un sabot malpropre, digne des autres bateaux de la flotte pirate, et le capitaine qui l'avait accueilli à bord d'un mot ordurier et d'un coup mal placé était aussi indiscernable de son équipage crasseux et grossier qu'un bâtard au milieu d'une meute de chiens des rues. Mais c'était la raison pour laquelle Kenneth avait choisi de monter à bord du Marietta. Il avait de belles lignes sous les débris accumulés pendant des années et la toile mal ravaudée de ses voiles. De plus, le capitaine était mûr pour la retraite. Un maître à bord qui n'avait pas l'autorité nécessaire pour laisser à son second le soin des jurons et des cris était un homme dont le règne touchait à sa fin. Il avait fallu 7 mois à Kenneth pour renverser le capitaine et 4 mois de plus pour passer aussi son second par-dessus bord. Quand il prit le commandement du Marietta, ses marins ne demandaient qu'à le suivre. Il choisit Sorcor avec soin et presque tous les hommes courtisaient l'homme pour devenir son fidèle subordonné. Une fois maître du navire, Sorcor et lui l'avaient mené au large, loin de la vue des côtes, et là, ils éliminèrent les éléments malsains de l'équipage comme un joueur se débarrasse de ses cartes sur la table. Seul capable de lire une carte ou de désigner un cap, ils étaient quasiment immunisés contre toute mutinerie. Cependant, Kenneth ne permit jamais à Sorcor de franchir la limite de la violence abusive. Il était convaincu que la plupart des hommes sont heureux sous une main ferme, et si cette main fournissait aussi la propreté et la sécurité d'un abri connu, les hommes n'en étaient que plus satisfaits. Ceux dont on pouvait faire des matelots le devinrent. Ils naviguèrent jusqu'au dernier biscuit du bord, et en se guidant aux étoiles que Sorcor et Kenneth connaissaient. Le temps qu'ils parviennent à un port si lointain que même Sorcor en ignorait la langue, le Marietta avait pris le déguisement d'un petit navire marchand propre, et l'équipage obéissait au doigt et à l'œil au capitaine et au second. Là, Kenneth passa une longue période à dépenser les portions de butin qu'il conservait depuis longtemps pour remettre son navire en état de marche. Quand le Marietta quitta cette côte, ce fut pour se permettre un mois de piraterie de précision sur des petits ports qui n'avaient jamais subi de telles attaques, puis rentrer à partage débordant d'objets et de pièces aux estampilles inconnues. Les marins qui revinrent étaient plus riches que jamais et fidèles comme des chiens. En un seul voyage, Kenneth s'était procuré un navire, une réputation et une fortune. Cependant, alors qu'il descendait sur les quais de partage, croyant avoir réalisé l'ambition de sa vie, toute sa joie tomba comme de la peau brûlée. Il regarda ses matelots fanfaronner sur les quais, vêtus de soie comme des seigneurs, leurs baluchons remplis de pièces, d'ivoire et de joyaux curieusement taillés. Et il sut que ce n'étaient que des marins et que leur butin finirait englouti dans la gueule de partage d'ici quelques heures. Et tout à coup, les ponts immaculés, les voiles proprement cousues et la peinture refaite de frais du Marietta lui parurent un triomphe aussi bref et superficiel que la fortune de son équipage. Il rejeta la compagnie de Sorcor et passa la semaine à boire dans la pénombre de sa cabine. Il n'aurait jamais cru être à ce point découragé par la réussite. Il se sentait floué. Il lui fallut des mois pour se remettre. Il se mouvait dans une noirceur insensibilisante, abasourdi par le désespoir qui le saisissait. Une lointaine partie de lui-même lui disait qu'il avait bien fait de choisir Sorcor. Le second se comportait comme si tout se passait normalement et ne s'enquit pas une fois de l'état du capitaine. Si l'équipage sentait que quelque chose n'allait pas, il n'en avait aucune preuve. Selon la philosophie de Kenneth, sur un navire bien géré, le capitaine n'avait jamais à s'adresser directement aux hommes, mais devait simplement faire connaître ses désirs au second et lui faire confiance pour les exécuter. Cette habitude lui fut fort utile durant ses jours de désespoir. Il ne ressentait plus rien le matin où Sorcor frappa à sa porte pour annoncer qu'ils avaient un beau gras vaisseau marchand en vue. Le capitaine désirait-il qu'on le poursuive ? Non seulement ils le poursuivirent, mais ils lui lancèrent des grappins et l'abordèrent, puis s'approprièrent une belle cargaison de vin et de parfums. Kenneth laissa le pont du Marietta à la charge de Sorcor, tandis qu'il menait lui-même son équipage sur le marchand. Jusque-là, il considérait les batailles et les tueries comme des aspects malpropres de la carrière qu'il s'était choisie. Mais pour la première fois ce jour-là, son cœur s'enflamma de la fureur du combat. Il tua et tua encore sa colère et sa déception jusqu'à ce que, ahuri, il s'aperçoive qu'il n'avait plus d'adversaire. Il tourna le dos au dernier qu'il avait tué et vit ses hommes réunis par petits groupes qui le contemplaient avec une sorte de fascination. Il n'entendit pas un murmure de leur part, mais l'horreur et l'admiration qu'il lut dans leurs yeux suffisaient. Il avait cru conquérir ses hommes par la discipline, mais ce fut ce jour-là qu'ils lui donnèrent vraiment leur cœur. Ils ne s'adresseraient pas à lui de façon familière et ne le considéreraient pas avec affection. Quand ils iraient boire et faire ripaille à partage, ils vanteraient sa stricte discipline de bord qui les désignerait comme des hommes résistants et sa violence à l'épée qui ferait de leur navire un bateau à respecter. De ce jour, ils s'attendirent que leur capitaine mène leurs attaques. La première fois où il les retint et obtint la reddition d'un capitaine marchand, les hommes firent preuve de mauvaise humeur jusqu'à ce qu'ils partagent entre eux la plus grande partie de la rançon du navire et de son fret. Alors tout avait été bien. On arrive presque à tout en satisfaisant l'avidité d'un équipage pirate. Au cours des années suivantes, il assit son petit empire. En Chalcède, dans les ports les plus miteux, il noua des relations avec des marchands qui achetaient habituellement sans poser de questions et avec de petits seigneurs chalcédiens qui ne se faisaient pas scrupule à jouer les intermédiaires dans la mise à rançon de navires, de cargaisons et d'équipages. Contre des frais de volée, on obtenait d'eux bien plus qu'à partage ou à port-crâne. Les derniers mois, Kenneth s'était pris à rêver que ces hobereaux chalcèdes l'aidaient à faire reconnaître les îles pirates comme un domaine légitime une fois qu'il aurait convaincu les habitants de l'accepter comme meneur. Il pointa de nouveau ce qu'il avait à proposer aux deux camps. Pour les pirates, la légitimité sans la menace d'un nœud coulant autour du cou et le commerce libre avec les autres ports. Une fois qu'il aurait unifié les îles et les villes pirates, il pourrait agir de concert pour mettre fin aux attaques d'esclavagistes sur leur cité. Une brève inquiétude le traversa. Ce programme suffirait-il à les rallier tous ? Mais il chassa bien vite cette idée. Pour les marchands de Chalcède et les négociants de Terrilville, les profits étaient plus évidents. Cabotage sûr, le long de la côte jusqu'à Terrilville, Chalcède et les terres au-delà. Ce ne serait pas gratuit, bien sûr. Rien n'était gratuit. Mais la sécurité était là. Un sourire flotta sur ses lèvres. Ils allaient apprécier ce changement. Il fut tiré de sa rêverie par une soudaine activité lorsque les hommes se dépêchèrent de lancer des lignes et de les attacher. Ils firent virer le navire en positionnant les chameaux de chanvre afin d'empêcher le Marietta de racler contre le quai. Kenneth se tenait muet et dédaigneux en écoutant Sorcor brailler les ordres nécessaires. Tout autour de lui, on nettoyait le navire et on arrimait tout. Il ne dit rien et ne bougea pas tant que tout l'équipage ne fut pas rassemblé dans le passe-avant à ses pieds, attendant nerveusement le partage du butin. Quand Sorcor vint le rejoindre sur le pont, il lui adressa un bref hochement de tête, puis se tourna vers les hommes.
« Je vous fais la même proposition qu'aux trois derniers ports. Ceux d'entre vous qui le désirent peuvent prendre leur part et l'emporter pour l'échanger et le vendre le mieux possible. Ceux d'entre vous qui ont de la patience et du bon sens peuvent en prendre une partie et nous laisser, le second et moi, disposer plus profitablement de la cargaison. Ceux qui choisiront cette solution pourront revenir au navire après-demain récupérer la partie restante de ses profits.
Des yeux, il balaya les visages de ces hommes. Certains soutinrent son regard et d'autres s'intéressèrent soudain à leurs voisins. Tous raclaient des pieds comme des gamins énervés. La ville, le rhum et les femmes les attendaient. Kenneth s'éclaircit la gorge.
Ceux qui ont eu la patience de me permettre de vendre leur cargaison à leur place peuvent vous dire qu'ils en ont tiré davantage que s'ils avaient marchandé dans leur coin. Un négociant en vin paiera plus pour tout un fret d'eau-de-vie que ce que vous obtiendrez d'un seul tonneau en discutant avec un aubergiste. Les balles de soie, vendues en lot à un tailleur, reviennent à un prix bien supérieur que vous n'en tireriez d'une seule coupe pour une putain.
Il se tut. À ses pieds, ces hommes s'agitaient impatiemment. Kenneth serra les mâchoires. Il n'avait cessé de prouver à tous que son système était plus profitable. Il le savait, chacun d'entre eux était prêt à l'admettre, mais à l'instant où ils s'amarraient au quai, tout bon sens les abandonnait. Et il se permit un bref soupir d'exaspération, puis s'adressa à Sorcor.
« Le pointage de nos gains, second. »
Sorcor le tenait prêt. Sorcor était toujours prêt pour tout. Il déroula le parchemin et fit semblant de le lire, mais Kenneth savait qu'il avait en réalité mémorisé ce dont il s'était emparé. Il n'était même pas capable de lire son propre nom, mais si on lui demandait quelle part revenait à l'équipage sur un ensemble de 40 balles de soie, il répondait sur l'instant. Un murmure appréciateur parcourut les hommes tandis qu'on lisait tout haut le pointage. Les maquereaux et les filles libres qui s'étaient rameutées sur le quai poussaient des huées et des coups de sifflet, et certaines filles annonçaient déjà leurs offres sur les marchandises. Les hommes s'énervaient comme des animaux à la tâche, et leurs yeux ne cessaient de passer de Sorcor à tous les plaisirs qui les attendaient sur le quai et le long de la route boueuse. Quand Sorcor eut fini, il dut hurler par deux fois pour obtenir le silence avant que Kenneth prenne la parole.
« Ceux d'entre vous, » fit-il d'une voix délibérément basse, qui souhaitent jouer une part de ce qui leur revient contre ce que notre fret nous rapportera, peuvent faire la queue devant ma cabine pour me voir cela seul. Les autres iront voir Sorcor. »
Il se tourna et descendit l'escalier jusqu'à sa cabine. Il trouvait plus pratique de laisser Sorcor s'occuper des autres, qui devraient simplement accepter du second les équivalences d'un tiers d'une balle de soie, des 2/5 d'un tonneau d'eau-de-vie et d'une demi-mesure de sindine. S'ils n'avaient pas la patience d'attendre pour obtenir leur part sous forme de pièces sonnantes et trébuchantes, ils étaient obligés d'accepter l'équivalent que Sorcor jugeait équitable. Sorcor était juste. Jusque-là, nul n'avait murmuré contre sa façon de partager. Ou bien, comme Kenneth, il ne remettait pas en cause son honnêteté, ou bien il n'osait pas rapporter leur mécontentement au capitaine. Dans les deux cas, cela convenait à Kenneth. La file qui se forma pour recevoir de l'argent était courte et c'était décevant. Kenneth remit à chacun 5 shelders. À son sens, c'était suffisant pour avoir des femmes, à manger et à boire toute la soirée, plus un lit convenable s'ils décidaient de ne pas revenir au navire. Dès qu'ils avaient leur argent en main, ils quittaient le bâtiment. Quand Kenneth émergea sur le pont, il vit le dernier marin sauter sur le quai bondé et il lui vint l'image d'un paquet de viande sanglante jeté au requin. Les gens du quai tournoyaient et s'attroupaient autour de lui. Les filles libres offraient leurs marchandises alors que les jeunes maquereaux s'égosillaient à lui dire qu'un bourlingueur riche comme lui pouvait se payer mieux, une femme dans un lit toute une nuit, et oui, une bouteille de rhum sur la table de chevet. Avec une résolution moindre, des apprentis vendaient à la criée du pain, des sucreries et des fruits mûrs. Le jeune pirate souriait de toutes ses dents, jouissant de leur cupidité. Apparemment, il avait oublié que dès qu'il n'aurait plus une pièce en poche, on se contenterait de l'abandonner dans un caniveau ou au fond d'une ruelle. Kenneth se détourna de l'agitation et du bruit. Sorcor avait déjà achevé son partage et, debout sur le haut pont près de la barre, il contemplait la ville. Kenneth fronça légèrement les sourcils. Le second aurait dû savoir à l'avance quels hommes désiraient leur part sous forme de bien et déjà calculer ce qu'il allait leur donner. Soudain, le front du capitaine se déplissa. Cette manière de faire était plus efficace, comme toujours avec Sorcor. Kenneth lui tendit une bourse pleine et le second la prit sans un mot. Au bout d'un moment, il fit rouler ses épaules et se tourna vers son capitaine qui dit
« Eh bien, Sorcor, m'accompagnez-vous pour changer notre fret contre de l'or ?»
D'un air gêné, le second fit un pas de côté.
« Si ça ne dérange pas le capitaine, j'aimerais mieux prendre du temps pour moi-même. »
Kenneth dissimula sa déception.
« Ça m'est égal, » mentit-il.
Puis il ajouta doucement.
« J'ai bien envie de renvoyer ces hommes qui exigent toujours leur part sous forme de biens. Plus j'ai à vendre en gros, meilleur est le prix que je peux en tirer. Qu'en dites-vous ? »
Sorcor déglutit avec peine, puis il toussota.
« C'est leur droit, capitaine, de prendre leur part sous forme de biens. On a toujours fait comme ça à partage. »
Il s'interrompit le temps de se gratter une joue couturée de cicatrices. Kenneth savait qu'il avait soigneusement pesé ces mots avant même qu'il les prononce.
« Ce sont de bons marins, capitaine, de bons matelots, de vrais compagnons de bord, et aucun ne rechigne au travail, que ce soit à l'aiguille ou au sabre. Mais ils ne sont pas devenus pirates pour vivre sous la loi d'un autre, même si cette loi est bonne pour eux. »
Non sans difficulté, il croisa le regard de Kenneth et ajouta
« On ne devient pas pirate pour se retrouver sous la botte d'un autre. »
Son ton hésitant s'accrut alors qu'il continuait.
« En plus, il faudrait payer des salaires d'enfer pour les remplacer. Ce sont des vieux de la vieille, pas des raclures de plancher de bordel. Si vous vous promeniez en demandant des hommes prêts à vous laisser vendre leur prise, vous obtiendriez des hommes qui n'auraient pas l'énergie d'agir seuls. Ce serait le genre à rester en arrière pendant que vous attaqueriez un autre navire et à ne passer sur son pont qu'une fois la victoire assurée. »
Sorcor secoua la tête, plus pour lui-même que pour son capitaine.
« Ces hommes vous sont dévoués corps et âme, capitaine. Ils sont prêts à vous suivre. Mais vous auriez intérêt à ne pas essayer de les obliger à renoncer à ce qui leur revient. Toutes ces histoires de rois et de meneurs les mettent mal à l'aise. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à se battre pour vous. »
La voix de Sorcor mourut et il leva soudain les yeux vers son capitaine comme s'il se rappelait à qui il s'adressait. Une brusque rage glacée s'empara de Kenneth.
« Vous avez sans doute raison, Sorcor. Veillez à ce qu'on monte bonne garde à bord, car je ne rentrerai pas de la nuit. Je vous laisse en charge du navire. »
Sans un mot de plus, Kenneth pivota sur ses talons et s'en fut. Il ne jeta pas un regard en arrière pour déchiffrer l'expression du second. Il venait de le confiner à bord pour la nuit, car l'accord qui les liait spécifiait que l'un d'eux dormirait sur le navire quand le Marietta était à quai.
Eh bien, qu'il grommelle tout son sou.
Sorcor venait d'anéantir tous les espoirs que Kenneth berçait depuis plusieurs mois. Tout en traversant les quais, il se demanda avec amertume quelle bêtise l'avait pris de faire ses rêves. Voici qu'il resterait toujours le capitaine d'une bande de vauriens qui ne verraient jamais plus loin que le bout de leur queue. D'un bond aisé, il sauta sur le quai. Aussitôt, une foule de vendeurs se précipita sur lui, mais d'un froncement de sourcils, il les fit reculer. Au moins, il avait ce genre de réputation à partage. Mais cette pensée l'aigrit encore davantage. On lui laissait le passage. Tu parles d'une réputation. Autant s'admirer dans une flaque d'urine. Il était capitaine d'un navire, mais pour combien de temps? Tant que les roquets à ses pieds croyaient en ses poings et en son épée. Dans 10 ans, il se trouverait un homme plus grand ou plus vif, et alors Kenneth pouvait s'attendre à faire partie des mendiants à la barbe grise qui se déplaçaient furtivement dans les ruelles pour voler les soulards et qui passaient des heures devant les tavernes à implorer des restes. La colère grossissait en lui comme du poison dans son sang. Il aurait mieux fait de trouver un endroit isolé en attendant que son humeur noire passât, il le savait. Mais sa haine soudaine de lui-même et de son monde était telle que la sagesse n'avait plus de place en lui. Il détestait la boue noire et collante des rues et des ruelles, il méprisait les flaques d'eau sale qu'il contournait, La puanteur et le bruit de partage ne lui inspiraient que dégoût. Il aurait aimé pouvoir se venger de ce monde et de sa propre stupidité en détruisant tout. Ce n'était pas le moment d'aller marchander, il le savait, mais cela lui était égal. Les courtiers prenaient de telles parts que ce n'était pratiquement pas la peine de traiter avec eux. Kenneth et son équipage s'en étaient mieux tirés quand ils s'étaient défaits de leurs marchandises en Calcède. Toutes les prises qu'ils avaient faites entre Calcède et ici, ils les avaient quasiment données à ces vautours. Dans son humeur irréfléchie, il laissa la soie pour la moitié de sa valeur. Mais quand le négociant essaya de faire une bonne affaire sur l'eau-de-vie et la sindine, il découvrit la fureur glacée de Kenneth et finit par payer plus que la normale pour empêcher le capitaine de déplacer son fret ailleurs. Le marché fut conclu d'un simple hochement de tête, Kenneth dédaignant de serrer la main de l'homme. L'or serait payé le lendemain quand le courtier enverrait ses débardeurs décharger la cargaison. Kenneth quitta le salon du courtier sans un mot. Dehors, le crépuscule de l'été était tombé. Les bruits et les cris rauques qui sortaient des tavernes avaient augmenté, tandis que les stridulations des insectes et les coassements des grenouilles des marais environnants formaient un chœur d'arrière-plan. Dans l'air rafraîchi, il sembla à Kenneth qu'un nouveau régiment d'odeurs assaillait ses narines. À chacune de ses grandes enjambées, la fange graisseuse de la rue émettait un bruit de succion. Il prenait garde de rester au milieu de la chaussée, loin des ruelles sombres et des prédateurs qui devaient y rôder, la plupart assez désespérés pour attaquer le premier qui passait à leur portée. Comme s'il se souvenait d'un rendez-vous oublié, il lui revint qu'il avait faim et soif, et qu'il était fatigué et triste. La marée de sa colère avait reflué et l'avait laissé échouer dans la lassitude et la détresse. Sans grand espoir, il tenta de découvrir le responsable de sa situation. Et il lui déplut de se rendre compte qu'il n'avait comme toujours qu'à s'en prendre à lui-même. Il n'y avait personne d'autre à qui faire des reproches, personne d'autre à sanctionner. Il avait beau s'acharner à extirper ses défauts, de nouveaux semblaient toujours apparaître à leur place. Ses pas l'avaient porté au bordel de Bethel. De la lumière s'échappait dessous les volets des fenêtres basses. On entendait faiblement de la musique à l'intérieur, ainsi que le soprano un peu rauque d'une femme. Il existait peut-être une dizaine de bâtiments de plus d'un étage à partage, et celui de Bethel en faisait partie. Peinture blanche, petit balcon et toit aux tuiles rouges, on eût dit qu'on avait pris et laissé tomber un bordel calcédien dans la fange de partage. Des pots de fleurs sur les marches s'efforçaient de parfumer l'air, tandis que deux lanternes en cuivre brillaient de manière tentante de part et d'autre de la porte verte et dorée. Les deux spadassins de garde lui firent un sourire entendu. Tout à coup, il les détesta d'être si grands et si stupides, de gagner leur vie grâce à leurs seuls muscles. Il croyait que ce serait toujours suffisant, mais il n'était pas dupe. Il eut envie de les saisir à la gorge, de cogner leurs visages souriants l'un contre l'autre, de sentir leurs crânes se défoncer mutuellement, os contre os. Il eut envie de sentir leurs trachées s'écraser sous ses doigts, d'entendre leurs derniers soupirs fuir de leurs gorges broyées. Kenneth leur rendit leur sourire. Ils le regardèrent et leurs sourires se muèrent en rictus gênés. Enfin, ils le laissèrent monter en se ratatinant presque et s'écartèrent de la porte afin qu'il passe. Les portes du bordel se refermèrent derrière lui en laissant dehors la boue et les remugles de partage. Il se tenait sur le tapis d'un hall d'entrée sous la lumière atténuée d'une lampe jaune. Le parfum familier de Bethel flottait dans l'air, ainsi que l'odeur piquante de la sindine brûlée. Le chant et le doux tambourinement qui l'accompagnaient étaient plus forts. Un jeune domestique se tenait devant Kenneth et désigna sans un mot ses bottes boueuses. Sur un bref hochement de tête du capitaine, il bondit en avant avec une brosse pour enlever le plus gros de la fange, après quoi il procéda à un nettoyage soigneux à l'aide d'un chiffon. Ensuite, il versa de l'eau fraîche dans une cuvette et la présenta à Kenneth. Celui-ci prit le tissu drapé sur le bras du garçon et s'essuya la figure et les mains de la sueur et de la poussière de la journée. Enfin, le garçon regarda Kenneth sans mot dire, et le capitaine pirate ne put que lui donner une tape affectueuse sur la tête. Il lui fit un sourire rayonnant et traversa rapidement la pièce pour ouvrir la deuxième porte. Comme le battant blanc pivotait lentement sur ses gonds, le chant devint plus audible. Une femme blonde était assise en tailleur sur le sol et s'accompagnait de petits tambours tout en chantant quelques fadaises à propos de son amour vaillant disparu en mer.
Kenneth lui accorda tout juste un regard. Ce n'était pas elle ni ses chansons sirupeuses qu'il venait chercher.
Mais avant qu'il songeât à s'impatienter, Bethel s'était levée de son trône de coussin pour lui prendre doucement le bras.
« Kenneth ! »
s'écria-t-elle d'une voix où perçait une désapprobation amicale.
« Enfin, vous voici, méchant que vous êtes. Il y a des heures que le Marietta est au port. Qu'est-ce qui vous a retenu ?»
Elle avait teint ses cheveux noirs au henné, et son parfum pesait sur toute sa personne aussi lourdement que ses bijoux. Ses seins tremblaient dans son décolleté comme des vagues prêtes à inonder le bastingage.
Et il n'écouta pas ses réprimandes. Il savait que ses attentions avaient pour but de le flatter, et cela ne faisait que rendre plus irritante la scène que Bethel lui jouait. Naturellement, elle se souvenait de lui. Il la payait pour ça.
Il jeta un coup d'œil alentour pour examiner la salle meublée avec goût et la poignée d'hommes et de femmes bien faits assis sur les fauteuils et les canapés à coussins. Deux femmes lui sourirent.
C'était des nouvelles.
Aucun des autres personnages ne croisa son regard. Kenneth revint à Bethel et interrompit le flot de son bavardage flatteur.
« Je ne vois pas état. »
Bethel fit une moue désapprobatrice.
« Quoi ? Vous vous croyez le seul à l'honorer ? Elle ne pouvait pas vous attendre. Si vous arrivez en retard, maître Kenneth, vous devez bien...
Faites-la chercher et envoyez dans la chambre supérieure. Attendez. Qu'elle se baigne d'abord pendant que je mangerai. Dépêchez-moi un bon repas avec du pain frais. Pour le reste, je vous fais confiance.
Et n'oubliez pas le vin, Bethel. J'ai le palais fin. Ne me servez pas le raisin en décomposition que vous m'avez donné l'an dernier, ou bien ce sera la dernière fois que votre maison me verra.
Maître Kenneth, croyez-vous possible que je frappe à une porte pour annoncer à un de mes autres clients qu'État est attendu ailleurs? Croyez-vous que votre argent se dépense plus facilement que celui d'un autre? Si vous vous présentez tard, vous devez choisir entre... »
Sans prêter attention à ses propos, il gravit l'escalier incurvé qui partait du coin de la salle. Un instant, il resta immobile au premier étage. Les bruits qu'il entendait lui évoquèrent un mur plein de rats, et il eut un grognement de dégoût. Il ouvrit une porte qui donnait sur un palier mal éclairé et monta une nouvelle volée de marches. Là, sous les gouttières, se trouvait une chambre qui n'avait de mur mitoyen avec aucune autre. Elle possédait une fenêtre qui donnait sur le lagon, et, par habitude, il alla se planter devant elle. Le Marietta tanguait légèrement près de son quai. Une seule lanterne éclairait son pont. Tout allait bien. Il se retourna quand un serviteur tapa à la porte.
« Entrez !»
répondit-il d'un ton bourru. Les habits de l'homme qui apparut semblaient mal convenir à son personnage. Les cicatrices de nombreuses rixes de taverne marquaient son large visage, mais c'est avec une grâce discrète qu'il alla préparer un feu dans la petite cheminée à l'autre bout de la pièce, puis alluma deux bougies pour Kenneth. À leur chaude lumière, celui-ci prit conscience de l'obscurité qui avait accompagné la nuit d'été. Il s'écarta de la fenêtre et prit place sur les coussins d'un fauteuil. La soirée n'avait pas besoin d'être réchauffée, mais il aimait le doux parfum du pain résineux et la lumière dansante des flammes. Un second choc à la porte annonça deux autres serviteurs. L'un d'eux déposa un plateau sur la nappe immaculée d'une petite table, tandis que l'autre présentait à Kenneth un bol et un broc d'eau fumante parfumée à la lavande.
« Au moins, se dit-il, Bethel s'était-elle souvenue de ses goûts ?»
Et malgré lui, il s'en sentit flatté. Il se lava de nouveau la figure et les mains, puis fit signe au domestique de se retirer avant de s'installer devant son repas. Il n'était pas nécessaire que la cuisine fût très bonne pour surpasser la chair du bord, mais le présent repas était excellent. La viande tendre baignait dans une sauce sombre, le pain avait été cuit de frais, et la compote de fruits épicés qui accompagnait les plats faisait un contrepoint agréable à leur saveur. Le vin n'avait rien d'exceptionnel, mais il était plus qu'honorable. Kenneth prit son temps pour manger. Il se laissait rarement aller au plaisir physique, sauf quand il était d'humeur amère. alors il profitait de tous les petits efforts qu'il faisait pour se réconforter. Les distractions qu'il s'offrait actuellement lui rappelaient, d'une certaine façon, la manière dont sa mère le dorlotait quand il était malade. Ses propres pensées lui inspirèrent un grognement de dédain et il les repoussa en même temps que son plateau. Il se versa un second verre de vin, ôta ses bottes devant le feu et s'adossa dans son fauteuil. Il plongea le regard dans les flammes et prit soin de ne penser à rien. Un coup à la porte annonça le dessert. « Entrez !» fit-il d'un ton distrait. Le bref divertissement du repas s'était évaporé, et le puits de désespoir qui béait devant lui était sans fond. Tout était inutile, tout, inutile et éphémère. « Je t'ai apporté de la tarte aux pommes chaudes et de la crème fraîche, » dit Etta à mi-voix. Il ne tourna que la tête pour la contempler. « C'est gentil, » répondit-il d'un ton monocorde. Il la regarda s'approcher de lui. « Droite et fine, » se dit-il. Elle ne portait qu'une robe blanche. Elle était aussi grande que lui, avec de longs membres flexibles comme une baguette de saule. Il se radossa à son fauteuil et croisa les bras pendant qu'elle posait l'assiette de porcelaine blanche et le dessert devant lui. L'odeur de cannelle et de pommes de la préparation se mêlait au parfum de chèvrefeuille d'état. Elle se redressa et il la considéra un instant. Son regard noir rencontra sans passion celui de Kenneth. Sa bouche n'exprima rien. Il eut soudain envie d'elle. « Enlève tout ça et va t'allonger sur le lit. Ouvre les draps d'abord. » Elle obéit sans une hésitation. C'était un plaisir de la regarder bouger à son commandement, rabattre les couvertures pour dénuder les draps blancs, puis se redresser et attraper l'ourlet de son décolleté pour soulever sa robe et la passer par-dessus sa tête. Elle la plaça soigneusement sur une commode basse au pied du lit. Kenneth ne cessa de l'observer, de regarder ses flancs longs et étroits, le discret arrondi de son ventre, sa poitrine modeste. Elle portait les cheveux courts et lisses, coupés au carré comme ceux d'un garçon. Même les méplats de son visage étaient longs. Sans tourner les yeux vers Kenneth, elle s'allongea soigneusement sur le lit et ne dit rien en l'attendant. Il se leva et se mit à déboutonner sa chemise. « Tu es propre ?» demanda-t-il d'un ton insensible. « Aussi propre qu'on peut l'être avec du savon et de l'eau ?» rétorqua-t-elle. Elle restait parfaitement immobile. Avait-elle peur de lui ?« As-tu peur de moi ?» demanda-t-il, et il s'aperçut alors qu'il ne s'agissait pas de la même question. « Parfois, » répondit-elle. Elle maîtrisait sa voix ou alors elle était indifférente. Il accrocha son manteau à la colonne de lit. Sa chemise et son pantalon pliés rejoignirent la robe sur la commode. Il lui plaisait de la faire attendre pendant qu'il ôtait soigneusement ses vêtements et les posait de côté. « Le plaisir retardé, » se dit-il. Comme la tarte tiède et la crème sur le plateau près du feu, cela aussi l'attendait. Il s'assit sur le lit et caressa sa pelisse. Elle avait une légère chair de poule. Elle ne parla ni ne bougea. Elle avait appris les années passant ce qu'il exigeait. Il payait pour sa satisfaction personnelle, il ne désirait ni encouragement ni enthousiasme. C'était pour son plaisir à lui, pas à elle. Il observa son visage en y passant une main douce. Les yeux d'Etta ne cherchèrent pas les siens. Elle scrutait le plafond de même qu'il étudiait son visage. Il n'y avait qu'un défaut à la peau d'Etta. Dans son nombril, petit comme un pépin de pomme, se trouvait un minuscule crâne blanc. L'amulette de bois sorcier était attachée par un mince fil d'argent. La moitié de ses gains allait à Bethel pour l'allocation de cette babiole. Au début, où elle et lui avaient fait connaissance, elle lui avait dit que cela la gardait de la maladie et de la grossesse. C'était la première fois qu'il entendait parler de bois sorcier comme amulette, ce qui l'avait amené à acheter le visage accroché à son poignet. Ses pensées lui firent songer que le visage ne s'était plus exprimé depuis qu'ils avaient quitté les eaux de l'île des autres. Encore du temps et de l'argent gaspillé, un autre signe de sa stupidité. Il serra les dents et étabroncha légèrement. Il s'aperçut qu'il lui avait serré la cuisse au point de la meurtrir. Il relâcha sa prise et la caressa. « Laisse tomber. Concentre-toi sur ce que tu fais. » Quand il fut prêt, il lui ouvrit les jambes et la monta. En une dizaine de va-et-vient, il se vida en elle. Toute tension, toute colère, toute frustration refluèrent. Un moment, il demeura allongé sur elle à se reposer, puis il la prit à nouveau plus calmement. Cette fois, Éta l'agrippa. Cette fois, ses hanches montèrent à la rencontre de celles de Kénith, et il comprit qu'elle y trouvait sa propre détente. Il ne lui refusa pas ce plaisir tant qu'il ne gênait pas le sien. Il se surprit lui-même quand il l'embrassa par la suite. Elle eut soin de ne pas bouger à ce moment-là. Il y songeait alors qu'il se retirait d'elle. Embrasser une pute? Bah, il en avait le droit s'il en avait envie. Il payait pour tout ce qu'il avait envie de faire avec elle. Il ne put toutefois s'empêcher de se demander où avait été la bouche de la putain cette nuit-là. Il y avait une robe de soie dans le tiroir de la commode. Il la prit, l'enfila, puis traversa la pièce jusqu'à la table. Éta resta au lit, à sa place. Il avait avalé deux bouchées de tarte aux pommes quand elle prit la parole. « Quand j'ai vu que tu étais en retard, j'ai eu peur que tu ne viennes pas. » À la fourchette, il se coupa une nouvelle part de la tarte. La croûte était croustillante et l'intérieur rempli de fruits épicés. Il y versa de la crème et mâcha lentement. Une fois qu'il eut avalé, il demanda « Crois-tu que je me soucie de ce que tu crains ou penses ?» Les yeux d'Éta faillirent croiser les siens. « Je crois que tu t'en soucierais si je n'étais pas ici, de même que je me suis inquiété la dernière fois que tu n'es pas venu. » Il termina une nouvelle bouchée de tarte. « Cette conversation est stupide, je n'ai pas envie de la poursuivre. »« D'accord, » dit-elle, et il ne sut pas si elle acceptait son ordre ou bien si elle était de son avis. C'était sans importance. Elle se tut pendant qu'il finissait sa tarte. Il se versa un nouveau verre de vin, s'adossa à son siège et se remémora les semaines passées. Quel idiot! Il aurait dû remettre à plus tard de se rendre à l'île des autres, et après avoir entendu l'oracle, il avait été stupide de faire part à l'équipage de ses ambitions. Imbécile! Crétin! À l'heure qu'il est, il devait être la risée de partage. Il imaginait d'ici les moqueries dans les tavernes et les auberges. Roi des pirates, devait-on dire. Comme si on voulait de lui comme roi, comme si on avait besoin d'un roi. Et on devait éclater de rire. La honte l'engloutit. Il s'était encore une fois humilié, et comme toujours, c'était de sa faute. Mais qu'il était donc bête! Son seul espoir de survie était que personne ne s'aperçoive à quel point il était stupide. Il resta assis devant le feu, à faire tourner sa bague autour de son doigt, le regard plongé dans les flammes. Il jeta un coup d'œil à l'amulette en bois sorcier accrochée à son poignet. Son sourire sardonique se moquait de lui. S'était-elle jamais animée, ou bien était-ce encore un tour de la magie des autres? Il avait fait une erreur en se rendant sur leur île. Sans doute son équipage en pensait autant et considérait son capitaine comme une femme stérile ou un fanatique à la recherche d'un oracle. Pourquoi ses plus grands espoirs débouchaient-ils toujours sur ses plus grandes humiliations? « Veux-tu que je te masse les épaules, Kénith ?» Il tourna vers Éta un regard noir. Interrompre ainsi ses réflexions. Pour qui se prenait-elle? « Qu'est-ce qui te ferait croire que ça me ferait du bien ? » demanda-t-il d'un ton glacé. Elle répondit d'une voix monocorde. « Tu paraissais troublé, fatigué et tendu. Et tu penses pouvoir savoir tout cela de moi rien qu'en me regardant, putain ?» Les yeux noirs de la femme soutinrent ceux de l'homme. Une femme sait cela rien qu'en regardant un homme, quand elle l'observe depuis 3 ans. Elle se leva et vint se placer près de lui, toujours nue. Elle posa ses longues mains étroites sur ses épaules et les massa à travers la soie fine de la robe. C'était très bon. Un moment, il resta immobile et toléra son contact. Mais alors elle se mit à parler tout en malaxant ses muscles noués.
« Tu me manques quand tu pars pour ces longs voyages. Je me demande si tu vas bien et parfois si tu vas rentrer.
Après tout, qu'est-ce qui te rattache à Partage ?
Je sais que je ne t'intéresse guère.
Tu veux seulement que je sois là et que je me comporte comme tu le souhaites ?
Je pense que Bethel ne me garde qu'à cause de ta préférence pour moi. Je ne suis pas ce que désirent la plupart des hommes. Comprends-tu à quel point cela te rend important dans mon existence ? Sans toi, Bethel me mettrait à la porte et je serais obligée de travailler comme fille libre. Mais tu viens, tu me demandes par mon nom, tu prends la plus belle chambre pour notre usage et tu payes toujours en bon or. Sais-tu comment les autres m'appellent ici ? La putain de Kenith.
Elle eut un petit rire bref et amer. Autrefois, cela m'aurait humilié. Aujourd'hui, j'aime cette phrase.
Qu'est-ce que tu racontes ?
La voix de Kenith trancha dans ses réflexions comme un couteau.
Tu crois que je te paie pour t'écouter parler ?
C'était une question. Elle avait donc le droit de répondre ?
Non, fit-elle à mi-voix. Mais je pense qu'avec l'or que tu donnes à Bethel, je pourrais nous louer une petite maison. Je l'entretiendrai, j'y ferai le ménage. Tu pourrais toujours y revenir et elle serait toujours prête et propre. Je jure que jamais tu ne sentirais l'odeur d'un autre homme sur moi.
Il s'esclaffa.
Et tu crois que ça me plairait ?
J'en sais rien, répondit-elle à voix basse. Moi, je sais que ça me plairait. C'est tout.
Ce qui te plaît ou ne te plaît pas m'indiffère,
dit-il, et il ôta les mains d'État de ses épaules. Le feu avait chauffé sa peau. Il quitta son fauteuil et se tourna face à la femme, passa la main sur sa peau nue, fasciné un moment par la chair réchauffée par les flammes. Cela l'excita de nouveau. Mais quand il leva le regard vers son visage, il resta interdit devant les larmes qui coulaient sur ses joues. C'était intolérable.
« Retourne au lit !»
lui ordonna-t-il avec dégoût. Et elle obéit, docile comme toujours. Il resta debout devant le feu avec le souvenir de la police sous ses doigts et le désir de s'en servir à nouveau, mais interloqué par son visage mouillé et ses yeux pleins de larmes. Ce n'était pas pour ça qu'il payait une pute. Justement, il en payait une pour éviter ce genre de scène. Sacrebleu, il l'avait payé. Sans se retourner, il dit brusquement « Mets-toi sur le ventre !» Il l'entendit bouger entre les draps et il s'approcha d'elle rapidement à travers la pièce assombrie. Il la prit ainsi, le visage dans l'oreiller, comme un garçon, mais il la monta comme une femme. Que nul, pas même une putain, ne puisse dire que Kenith ignorait la différence entre les deux. Il savait qu'il n'avait pas fait montre de rudesse, et pourtant elle pleura, même quand il s'écarta d'elle. Sans qu'il comprît pourquoi, les pleurs presque silencieux de la femme à ses côtés le troublèrent, et ce trouble se mêlait à l'humiliation et au dégoût qu'il s'inspirait plus tôt. Qu'avait-elle donc ? Il l'avait payé, non ? De quel droit attendait-elle davantage de lui ? Après tout, ce n'était qu'une pute. C'était le marché qu'ils avaient passé. Brusquement, il se leva et se mit à enfiler ses vêtements. Au bout d'un moment, elle cessa de pleurer et elle se retourna soudain dans le lit.
« Je t'en prie, » fit-elle d'une voix rauque, « je t'en prie, ne t'en va pas. Je regrette de t'avoir déplu, je vais me tenir maintenant, je te le promets. »
Le désespoir de sa voix fit écho à celui que Kenith sentait au fond de son cœur, acier contre acier. Il devrait la tuer. Il devrait la tuer plutôt que de la laisser lui adresser de telles paroles. Mais il enfonça la main dans la poche de son manteau.
« Tiens, voici pour toi, »
dit-il en tâtonnant à la recherche de quelques petites pièces à lui donner. L'argent lui rappellerait à tous deux ce qu'il faisait dans cette chambre. Mais le sort l'avait trahi car il n'y avait rien dans sa poche, tant il avait quitté le Marietta en hâte. Il faudrait qu'il retourne au navire pour payer Bethel, et c'était extrêmement embarrassant. Il savait que la putain le regardait, en attente. Quelle plus grande humiliation que de se tenir sans le sou devant la putain qu'on vient d'utiliser. Mais à cet instant, dans un coin de sa poche, il sentit un objet tout petit qui le piqua sous l'ongle. Il se l'arracha, agacé. C'était sans doute une épine ou un petit caillou, mais il extirpa en fait le minuscule clou d'oreille du chaton bleu. Le rubis scintillait, mais il n'avait jamais aimé les rubis. Cela irait bien pour Etta.
« Tiens, » dit-il en lui mettant le bijou dans la main.
Il ajouta, « Ne quitte pas la pièce, garde-la jusqu'à demain soir, je reviendrai. » Il sortit avant qu'elle pût répondre. Son geste lui coûtait car il s'attendait que Bethel demandât une rançon de petit roi pour garder la pièce et la fille de côté toute une nuit et un jour en plus. Et bien qu'elle l'exige, il savait ce qu'il devrait, et cela lui éviterait d'avouer à Bethel qu'il n'avait pas de quoi payer pour la soirée qu'il venait de passer. Il éviterait au moins cette humiliation. Il descendit sans discrétion l'escalier et passa la porte.
« Je veux qu'on garde la chambre et la fille telles qu'elles sont, » dit-il à Bethel au passage.
En une autre occasion, il se serait presque réjoui de la consternation qui se peignit sur le visage de la maquerelle. Il s'était déjà bien engagé dans la rue quand il sentit sa bourse taper contre sa poche gauche. C'était ridicule. Il ne la plaçait jamais là. Il envisagea de faire demi-tour et de payer Bethel sur le champ, mais préféra s'en abstenir. Il n'aurait l'air que d'un imbécile s'il revenait en disant avoir changé d'avis. Un imbécile. Le mot laissa une trace brûlante dans son esprit. Il allongea le pas dans l'espoir d'échapper à ses propres pensées. Il avait besoin de bouger. Comme il suivait la rue pleine de fange collante, une petite voix s'éleva de son poignet.
« C'était sans doute le seul trésor qu'on ait jamais emporté de l'île des autres, et tu l'as donné à une putain. »
« Et alors ? » fit-il en approchant le petit visage du sien.
« Alors, peut-être jouis-tu de chance et de sagesse à la fois ?»
Le petit visage lui fit un sourire moqueur.
« Peut-être. »
« Que veux-tu dire ?» Mais le bois sorcier n'ajouta rien ce soir-là, pas même lorsque Kenneth lui donna une chiquenaude. Les traits gravés demeurèrent aussi durs et immobiles que de la pierre. Il se rendit au salon d'Ivrault. Il ignorait qu'il y allait jusqu'à ce qu'il se trouvât devant sa porte. À l'intérieur, tout était sombre. Il était beaucoup plus tard qu'il ne le croyait. Il donna des coups de pied à la porte jusqu'à ce que le fils d'Ivrault, d'abord, puis Ivrault lui-même, lui hurle de cesser.
« C'est Kenneth !» annonça-t-il dans le noir. « Je veux un autre tatouage !»
Une faible lumière s'alluma dans la maison. Au bout d'un moment, Ivrault ouvrit brusquement la porte.
« Pourquoi perdre mon temps ?» lança le petit artisan d'un ton furieux. « Allez demander ailleurs, chez un lourdeau muni d'une aiguille et de cendres et qui se fiche de son travail. Ensuite, vous pourrez faire cautériser son tatouage le lendemain. Comme ça, vous n'aurez rien détruit de valeur. »
Il cracha en manquant de peu les bottes de Kenneth.
« Je suis un artisan, pas une putain !»
Kenneth se retrouva les doigts serrés autour de la gorge de l'homme à le tenir sur la pointe des pieds et à le secouer comme un prunier.
« J'ai payé, maudit que vous êtes !»
cria-t-il.
« J'ai payé et j'en ai fait ce que j'ai voulu, c'est compris ?»
Il reprit son sang-froid aussi vite qu'il l'avait perdu. Le souffle court, il remit l'artiste sur ses pieds.
« C'est compris !»
gronda-t-il plus doucement. Il lut de la haine dans le regard de l'homme, mais aussi de la crainte. Il obéirait. Il obéirait pour le bon or qui cliquetait dans la bourse que Kenneth lui montra. Les artistes et les putains, l'or les achetait toujours. Un artiste n'était jamais qu'une putain bien payée.
« Entrez alors !» dit Ivrault d'une voix funèbre.
Avec un frisson dans le dos, Kenneth se rappela que le petit homme lui donnerait de la douleur aussi bien que de l'art. Ivrault ferait en sorte que ses minuscules aiguilles fussent aussi acérées que possible. Mais il était aussi assez artiste pour rendre son tatouage, Kenneth le savait, aussi parfait qu'il le pourrait. La douleur et la perfection. C'était le seul chemin qu'il connut vers la rédemption. Et s'il avait jamais eu besoin de refaire sa chance, c'était bien ce soir. Kenneth suivit l'homme dans son salon et déboutonna sa chemise tandis qu'Ivrault allumait chandelier sur chandelier. Il plia soigneusement sa chemise et s'assit sur un tabouret, sa chemise et sa veste sur les genoux. Il ressentit un terrible avant-goût de délivrance tandis qu'Ivrault se déplaçait dans la pièce pour redresser les chandelles et rapprocher ses outils.
« Où et quoi ? »
demanda Ivro. Sa voix était aussi froide que celle de Kenneth quand il s'adressait à une prostituée.
« Manuk, » répondit doucement Kenneth.
« Et un autre. »«
Un autre quoi ?»
rétorqua Ivro d'un ton irrité. Il tirait déjà une table à lui. De petits pots aux encres vives s'y alignaient en rang précis. Il plaça un tabouret derrière Kenneth et y prit place.
« Un autre !» répéta Kenneth. « Comme ceux de l'île des autres. Vous savez bien ce que je veux dire. »«
Oui, »
répondit Ivro d'un ton âpre.
« C'est un tatouage qui porte malchance. Et je suis plus qu'heureux de vous le piquer dans la peau, fils de chien. »
Du bout des doigts, il arpentait doucement la peau de Kenneth. À Jamelia, un propriétaire avait le droit d'imprimer sa marque sur le visage d'un esclave, et même si l'esclave rachetait sa liberté, il lui était interdit d'ôter les marques de sa servitude. Dans les îles des pirates, en revanche, le même homme pouvait décorer toute partie de son corps comme il l'entendait. D'anciens esclaves, tels Sorcor, préféraient faire brûler leurs tatouages. D'autres faisaient retravailler leurs marques en nouveaux symboles de leur liberté par des artistes comme Ivro. Du bout des doigts, le tatoueur toucha les deux cicatrices qui ornaient déjà la nuque de Kenneth.
« Pourquoi les avoir fait brûler ? J'ai travaillé des heures sur ces tatouages et vous me les aviez bien payés. Ils ne vous plaisaient plus ?»
Puis,
« Penchez la tête, votre ombre me gêne. »«
Il me plaisait bien, » marmonna Kenneth. Il sentit la première piqûre dans sa peau. La chair de poule l'envahit et son cuir chevelu tressaillit sous la douleur. Plus doucement, il ajouta,
« Je préférais les cicatrices. »« Vous êtes fou !»
fit Ivro, mais sa voix était distraite. Kenneth n'était plus rien pour lui, à présent, ni un homme, ni un ennemi, rien qu'un tissu pour son travail passionné. Les petites aiguilles perçaient sans cesse. La douleur faisait se tendre la peau de Kenneth. Il entendit Ivro pousser un petit soupir de satisfaction. C'était la seule façon, se dit-il, la seule façon de purger la malchance. Se rendre sur l'île des autres avait été une mauvaise décision, et il devait à présent la payer. 1000 piqûres d'aiguilles et un tatouage cuisant le jour suivant. Puis, la souffrance purifiante du fer rouge pour brûler l'erreur et faire comme si elle n'avait jamais été commise, tout cela pour conserver sa chance en état, se dit Kenneth en serrant les poings. Derrière lui, Ivro fredonnait, appréciant à la fois son œuvre et sa vengeance.